Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Alexandra Rekia. Alexandra est 5 fois championne du monde de karaté et elle prépare actuellement les Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels elle espère se qualifier. J'ai été réellement bluffé par la capacité d'Alexandra à se créer son personnage de combattante. En effet, elle n'est pas du tout la même sur le tatami et dans la vraie vie. Nous avons aussi abordé le fait qu'elle a complètement professionnalisé son entraînement par la nutrition et la préparation mentale. Alexandra a une super personnalité et je suis vraiment content du rendu de cet épisode car je me suis beaucoup remis en question ces dernières semaines, notamment sur la qualité de mes questions et de mes interviews. Donc j'espère que l'évolution vous plaira. D'ailleurs, si vous aimez l'interview d'Alexandra, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien et votre aide pour que le podcast monte dans les classements et entre dans la légende. Si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à donner des étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. D'ailleurs, voici le commentaire de la semaine. Super inspirant. Barthélémy nous fait découvrir des sportifs au parcours et aux exploits insolites et impressionnants. Je suis impatiente d'écouter les prochains épisodes. Eh bien, merci à Velvet Goldmine pour ce super commentaire. Enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram extraterrien.podcast et vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Alexandra Rekia. Salut Alexandra.
Bonjour Barthélémy.
Merci beaucoup de me recevoir chez toi.
Avec plaisir.
Je suis vraiment ravi de te rencontrer. J'ai pris énormément de plaisir à préparer cette interview, découvrir le karaté, découvrir un sport de combat ultra intense. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ta personnalité un petit peu tellement différente en dehors du tatami et sur le tatami qu'on va essayer de découdre un petit peu ensemble les clés de ton succès. Mais comme je te disais à l'instant, je commence toutes les interviews par une question. Quel est ton premier souvenir de sport ?
Alors, mon premier souvenir de sport, c'est en karaté et c'est ma première participation en fait en compétition. J'avais 5 ans et demi, ça faisait 6 mois que je faisais du karaté. Et en fait, je m'arrête en plein milieu de mon kata, donc je perds la compétition. Et je vais vers ma maman en pleurant parce que je détestais perdre. Et en fait, elle m'a accueilli très très froidement en me disant « c'est bien fait, t'avais 4 souvenirs de ton kata ».
D'accord.
Et en fait, c'est, je pense, le souvenir qui a défini toute ma carrière derrière. Donc voilà, c'est vraiment le souvenir que je garde en mémoire.
Donc déjà, à l'époque, tu détestais perdre et tu étais très compétitif, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. J'étais une enfant. Enfin voilà, les jeux de société entre frères et sœurs, c'était un peu le calvaire. D'ailleurs, ils ont arrêté de jouer avec moi pendant plusieurs années. Donc voilà, dans la compétition, dans toujours le challenge. Et voilà, je détestais perdre, vraiment. Je faisais tout pour gagner, même aller jusqu'à tricher.
Ah, c'est marrant, ça. Et du coup, ta maman t'avait un petit peu tirer l'oreille, on va dire, entre guillemets.
Elle m'avait accueilli super froidement et vraiment, ça m'a mis un coup de honte et du coup, je suis allée pleurer vers papa. Mais intérieurement, je me suis dit, d'accord, mais tu vas voir, c'est fini, tu m'accueilleras plus jamais comme ça.
Ok. Et du coup, après chaque compétition, tu viens la revoir maintenant ?
Bah, ils sont souvent avec moi. Mes parents, c'est mes premiers supporters, donc ils sont souvent avec moi. Et s'ils sont pas avec moi, je les ai systématiquement au téléphone avant et après la compétition. Donc, c'est arrivé qu'ils m'aient encore accueilli froidement comme ça après quelques compétitions. Il y a pas si longtemps que ça, mais bon, c'est le jeu.
Ouais. Et comment est-ce qu'ils t'ont tourné vers le karaté ? J'imagine que c'est pas nécessairement toi qui allais volontairement.
Alors, mon papa en avait fait du karaté, donc okay. Il aimait déjà la discipline en elle-même. Et ma maman avait toujours voulu en faire, elle n'avait pas eu l'occasion, mais ils se sont dit que étant la plus petite, ça pourrait être bien pour moi, pour canaliser mon énergie, mais aussi apprendre à me défendre, etc. Donc, ils se sont dit les arts martiaux, en termes de valeur et d'apport dans la vie quotidienne, c'est ce qui me correspondrait le plus, et ils ont eu raison.
Ok, parce que j'avais lu que déjà petite à l'école, t'aimais bien te chamailler un petit peu.
Alors j'aimais pas chamailler, mais par contre quand on m'embêtait, je disais une fois stop et la deuxième fois je cognais.
Comme ça,
donc
tout le monde
du coup était voilà, ils se sont dit c'est parfait, ça va lui correspondre, elle va pouvoir taper sur les gens dans les règles.
Mais c'est marrant parce que j'ai un copain aussi pareil, ses parents l'ont tourné assez rapidement vers les sports de combat parce qu'il était un petit peu bagarreur et en fait ça l'a complètement calmé. Finalement, et c'est devenu quelqu'un de très calme en grandissant. Est-ce que toi, c'est un petit peu t'as un petit peu le même constat aussi sur toi-même ?
C'est vrai que le fait d'avoir beaucoup d'opposition au quotidien dans ma vie, ça me donne pas envie d'en avoir en dehors des tatamis, en fait. On se défrustre en quelque sorte de toutes les frustrations qu'on a pu avoir au cours de la journée. Donc c'est vrai que c'est finalement apaisant.
Ouais.
Je suis d'accord, ouais. Tout à fait.
Et tu sors de là,
on est tellement rincé que de toute façon, l'énergie, on la garde pour autre chose, quoi.
Ouais.
Pas pour les choses futiles.
Ok, d'accord. Donc finalement, hyper tôt en compétition, 6 ans et demi.
6 ans, ouais.
Ouais. Et après, j'ai cru... Enfin, tout est allé très vite pour toi parce que tu es arrivé en équipe de France très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs entre cette première compétition et ton arrivée en équipe de France ? Il a dû s'en passer des choses.
Oui, déjà, je suis restée invaincue dans ma région pendant 6 ans.
D'accord.
À l'époque, il n'y avait pas encore de championnat de France pour les petites catégories d'âge. C'est différent d'aujourd'hui. C'était différent d'aujourd'hui. Et donc, j'ai été invaincue dans ma région pendant plusieurs années. Et j'ai gagné mes tout premiers championnats de France, ce qui m'a permis d'intégrer le collectif France, de faire mes premiers stages, de prendre connaissance déjà qu'il y avait une équipe de France parce que j'en avais aucune idée avant. Et du coup, à l'issue de ces premiers stages, j'ai intégré l'équipe de France, j'ai eu ma première sélection et voilà, en fait, c'est vraiment, c'était pas quelque chose que j'ai forcément voulu, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à force de travail et de résultats, en fait.
Ouais. Mais et qu'est-ce qui a fait que tu t'es, entêté autant dans ce sport ?
Parce que j'y prenais énormément de plaisir. Vraiment c'est une passion même à l'heure actuelle où je sais que c'est ma dernière saison que j'ai tout donné pour le haut niveau Le karaté, je sais que je pourrais jamais arrêter, quoi. C'est mon premier amour, c'est ma première passion. Donc, je sais que j'y reviendrai, c'est sûr.
Tu y reviendras plus tard, tu penses ?
Oui, alors pas en compétition, hein, ouais. Ça, on est sûr, mais j'aimerais continuer à transmettre en fait ma passion. Je le fais déjà beaucoup, que ça soit en France ou à l'étranger. Et si la demande est toujours là, j'aimerais continuer à transmettre au cours de séminaires, de stages, de partage d'expérience.
Ok. Bon, bah c'est ça sent que t'es passionné en tout cas. et donc c'est pas trop désorientant, on va dire, pour une jeune adolescente de se dire ok, bah maintenant je fais des compétitions mondiales, je vais aller combattre un peu partout dans le monde. Ça t'a pas fait peur, ça, au début?
Non, pas du tout, parce que j'ai toujours cherché des challenges, en fait. C'est comme ça que j'évolue dans ma vie, c'est des challenges permanents, des défis. Et quand j'en relève un, ben, j'en cherche déjà un autre. Donc en fait, et d'ailleurs, avant de réussir, d'obtenir ma première médaille internationale, il a fallu que je m'accroche, c'est pas venu tout de suite. Ouais. Donc en fait, ça m'a demandé vraiment beaucoup de persévérance, de mental. Et une fois que j'y ai goûté, je me suis dit, mais c'est fini, je laisse plus rien à personne, je veux tout prendre, je veux tout gagner.
J'avais lu d'ailleurs dans une interview de toi que dès que tu as atteint le niveau international, c'est devenu ton objectif tout de suite, était de devenir championne du monde.
Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Ma première sélection, c'était un championnat du monde, mais j'étais cadette. Donc, j'avais 15 ans. Et je perds au premier tour parce qu'en France, on frappait un peu plus qu'à l'international et du coup j'ai été sanctionnée à plusieurs reprises et j'ai fini par être disqualifiée. Ouais. Donc j'ai vécu ça un peu comme une injustice parce que pour moi je frappais pas fort, mais bon, pour l'international c'était jugé trop fort par les arbitres. Donc il a fallu remettre un petit peu en question le travail qui était en place, s'adapter aux règles internationales. Ça a vraiment été compliqué pour moi et j'ai mis un peu de temps avant de décrocher ma première médaille, mais en fait il n'y a jamais été question d'abandonner parce que tout simplement, c'est pas dans mon vocabulaire.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu le même constat avec Hélène qui fait de l'escrime. Et elle, elle a eu, quand elle est arrivée sur la scène internationale, découvrir les différents types de jeux, les japonaises, les italiennes, les allemandes, elle raconte un peu ça avec beaucoup de passion aussi. Et au début, ça a été compliqué aussi pour elle de s'adapter aux différents types de jeux. Et du coup, le rapprochement est intéressant finalement dans les jeux de duel. Et pour toi, est-ce que le fait que ça soit un sport de combat, finalement, et qu'on te reproche un petit peu de frapper fort, ça n'a pas dénaturé, on va dire, ta vision du karaté? Ça a pas,
Alors, j'ai compris qu'il y avait plusieurs sortes de karaté, qu'il y avait vraiment le karaté compétition qui était reconnu par le CIO et qu'après il y avait d'autres pratiques beaucoup plus traditionnelles qui étaient complètement différentes. Mais vu que moi j'étais axée sur la performance, je me suis forcément tournée vers le karaté de compétition et j'ai compris que si je voulais rapporter des médailles, c'était à moi de m'adapter et pas aux règles de s'adapter à moi. Et en fait j'ai rapidement pris goût à ça parce que mon karaté a évolué vers beaucoup plus de fluidité et de vitesse et du coup je me suis rendu compte que je pouvais marquer des points, pas forcément en frappant plus fort, mais en allant plus vite que mon adversaire. Et ça, c'est un régal de démarrer sur un temps et on ressort et l'adversaire n'a rien pu faire, il a même pas vu la technique. Ouais. Voilà, on se dit, on est allé tellement vite qu'on nous a pas vu en face. Donc c'est un autre plaisir en fait, on prend vraiment un autre plaisir. Et aujourd'hui, je prends pas du tout plaisir à donner des coups. C'est-à-dire que dès que je touche mon adversaire un peu trop fort, je n'aime pas ça. Vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas faire mal. Et par contre, voilà, mon plaisir, c'est de démarrer et de mettre une jambe ou un coup de poing et d'être allé tellement vite que mon adversaire n'a pu ni bloquer, ni me contrer. C'est en fait, la vision du sport change, en effet.
Ok. Pour avoir regardé beaucoup de vidéos de toi, c'est quand même ultra. Enfin, c'est très, très, très costaud, quoi. Il y a des coups qui partent pour de vrai, quoi. C'est pas, on se donne pas des caresses.
Non, on se donne pas des caresses. C'est vrai que ça va très vite, c'est très explosif. Donc si après il y a une petite faille dans la jauge de distance, c'est ça qui va faire que des fois ça touche ou que ça ne touche pas. Ouais. Mais généralement, même si ça touche, c'est pas une frappe qui est gênante. Enfin ouais. Voilà, ça reste une touche qu'on est capable d'encaisser et du coup c'est largement gérable.
Ok, d'accord.
Voilà, on est habitué.
Et pour que les, du coup, pour que les auditeurs comprennent un petit peu, est-ce que tu peux expliquer comment se passe un combat?
Oui.
Combien de points avec les touches, justement et...
Oui, bien sûr. Alors, le combat, il dure 3 minutes au chrono, sachant qu'à chaque fois que l'arbitre arrête le combat, le chrono s'arrête. Donc, c'est 3 minutes de temps effectif, mais réellement, en pratique, les combats sont un peu plus longs. Et alors, tout ce qui est coup de poing, c'est 1 point.
Ouais.
Tout ce qui est coup de pied au niveau du corps, c'est 2 points. Et tout ce qui est coup de pied au niveau du visage et projection suivie au sol, donc on appelle ça des balayages, c'est 3 points.
D'accord.
Le combat s'arrête avant le temps réglementaire s'il y a 8 points d'écart entre les adversaires.
Ok.
Voilà, c'est tout ce dont on a besoin de savoir. C'est déjà pas mal.
Finalement, c'est très simple. Ouais.
Oui, oui, ça reste assez simple. Après, la difficulté, c'est que quand un néophyte vient voir la discipline sur un niveau international... Il est très souvent perdu, il est incapable de distinguer qui a marqué parce que c'est vrai que ça va très vite.
Ah mais moi j'ai été bluffé, enfin, et ça va tellement vite,
ouais,
oui. Toi t'es tellement explosive, j'imagine que tu dois bosser ça d'ailleurs tout le temps à l'entraînement, non? C'est la principale qualité
Alors c'est la qualité que j'ai dégagée étant toujours la plus petite, clairement, ouais. Encore aujourd'hui je pense dans ma catégorie, plus petite que moi, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dû développer d'autres atouts et notamment mon physique. Donc, c'est vrai que j'ai développé des cuisses très musclées, et ce qui me permet en fait de compenser mon manque d'allonge du fait de ma petite taille. Donc ça en fait c'est toujours une qualité que j'ai eue intrinsèquement, la vitesse, et que tous mes entraîneurs et professeurs ont su développer pour m'aider à atteindre la meilleure performance.
Ouais. Mais je serais curieux de savoir d'ailleurs comment est-ce que tu le travailles un petit peu. T'aurais un entraînement ou une séance un petit peu pour travailler son explosivité ou...
Alors moi j'ai un préparateur physique,
ouais.
Donc en fait c'est simple, on se voit 2 fois par semaine et je fais ce qu'il me dit. Mais globalement en fait pour développer de la vitesse et de l'explosivité, il faut d'abord faire un cycle de force.
Ouais.
Donc voilà, il faut vraiment développer de la force. Donc ça va passer par de la musculation, par des squats, par du soulevé de terre pour être assez homogène, que ce soit les quadriceps ou les ischios, jambiers, que ce soit l'avant ou l'arrière des cuisses.
Puis avec de certaines charges, j'imagine.
Oui, oui, voilà, on monte en charge progressivement, on développe sa force. Et une fois qu'on a développé sa force, on va basculer sur un cycle de statodynamique et d'explosivité.
Ouais.
Donc je rentre un peu dans des termes techniques, mais en gros, on va passer sur du lourd-léger. On va alterner du lourd et du léger sur une même séquence. Et enfin, une fois qu'on a terminé ce cycle-là, on va passer exclusivement sur de la vitesse et de l'explosivité pure, sans charge, en poids de corps, avec quelques contraintes néanmoins. Mais voilà, donc c'est tout un respect de cycle et qui va permettre de développer de la force, de la puissance et de la vitesse.
Bon, en tout cas, tu maîtrises ça sur le bout des doigts, donc j'imagine que...
J'espère que mon coach entendra et te dira qu'il approuvera tout ce que j'ai dit.
J'en suis sûr, non, j'en suis sûr. Mais j'aime beaucoup la préparation physique, donc c'est pour ça que à chaque fois, je suis très curieux de savoir les petits secrets de chacun. Mais toi, ça se voit que tu aimes beaucoup ça aussi. On voit un petit peu sur tes réseaux sociaux que tu aimes bien finalement la préparation physique et que c'est,
ouais.
Que c'est une composante importante de ta carrière.
Alors, c'est vrai que j'en fais pas depuis... très très longtemps, de la vraie préparation physique suivie avec un coach, de la musculation, ça fait peut-être que 4-5 ans que j'en fais finalement. Non, peut-être un peu plus, j'exagère. Peut-être 5-6 ans. Mais c'est vrai que quand on évolue dans un sport pendant des années et que on a tout gagné et que il faut essayer de trouver un petit peu des choses où on peut se challenger. Et c'est vrai que la prépa physique, pour moi, ça a été un peu une bouffée d'oxygène quand je stagnais un petit peu dans ma pratique du karaté et que je m'ennuyais un peu, j'en avais un peu ras-le-bol, j'avais besoin d'évoluer dans autre chose. Et la prépa physique, vraiment, je me suis épanouie là-dedans.
Ouais.
Et d'ailleurs, pendant une période, elle a pris trop de place. C'est-à-dire que je faisais beaucoup plus de préparation physique que de karaté. Donc du coup, il a fallu réadapter et puis comprendre que c'est pas la prépa physique qui allait me faire devenir championne olympique, mais bien faire du karaté. Donc voilà, il a fallu que je modifie un petit peu ma façon de m'entraîner et que je priorise le karaté. Mais c'est vrai que la prépa physique, j'adore, je me régale et je sais que mon sport de reconversion, ça sera le crossfit parce que je m'épanouis dans ce sport et on se challenge au quotidien en fait. Donc on n'est jamais sur ses acquis, on n'est jamais dans son confort en fait. Donc et voilà, moi j'évolue comme ça, j'ai besoin d'être défiée constamment, donc le crossfit c'est idéal pour moi.
Ouais, bah c'est top. Bah, si jamais ça t'intéresse, il y a l'épisode avec Carole Castellani que j'ai sorti cet été,
Là, je regarde, j'écouterai.
qui est voilà, la numéro 1 française au CrossFit, qui a fait les CrossFit Games. Et je crois qu'elle a terminé 30e. Donc,
D'accord, c'est pas mal du tout, hein.
ouais. Et
Donc,
là,
c'est
elle vient de
un...
gagner une compétition ce week-end avec son compagne et tout. Donc,
D'accord,
non, non,
super.
elle est très, très, très forte. Et pareil que toi, c'est une vraie passionnée de l'entraînement. Donc, ça pourrait t'intéresser.
Ouais, j'écouterai, j'écouterai.
Et ouais, donc tu disais que ça a pris trop de place à un moment. Qu'est-ce qui te l'a fait remarquer en fait, tout simplement?
Mes coachs en fait, équipe de France,
Ouais.
qui ont vu que ça devenait vraiment une passion, la prépa physique, et que j'avais vraiment tendance à caler mes semaines d'entraînement par rapport à ça. Et du coup, mais il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, hein. Il m'a fallu plusieurs mois avant d'accepter ce qu'ils disaient et de me dire, ils ont raison. Va falloir que je priorise le karaté. Donc ça a été un travail de longue haleine pour
Ah, mais ça peut se comprendre, si tu le dis, c'était une petite bouffée d'air frais pour toi, que
eux.
ça te
C'est ça.
permettait de te relancer un nouveau défi, et puis j'imagine que tu devais progresser physiquement aussi. Donc
Mais
c'est
c'est
sûr, quand tu
ça
vois
en
des
fait, c'est ça.
progrès physiques.
C'est ça, quand on fait des tests de force et qu'on voit qu'on a pris 15 à 20 kilos sur les max.
Ouais.
Et que moi, voilà, je suis toujours comme je le dis depuis tout à l'heure, dans le challenge, et que je vois que les poids augmentent. Mais le problème, c'est qu'après, c'est un cycle vicieux, et du coup, on s'arrête plus, on veut toujours plus. Et en fait, j'étais devenue mais tellement musclée et carrée que ça gênait ma pratique sportive, que je
D'accord.
perdais en fait vraiment de la. Enfin, ma performance allait vraiment en prendre un coup.
Ouais.
Donc, j'ai vraiment dû saisir cette chose-là et pour refaire basculer la prépa physique en second plan et comprendre que le karaté, c'était vraiment ce qui allait me faire gagner sur le tapis.
Ok. Mais super, enfin, c'est hyper intéressant. Je sais, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, et pourtant, j'en ai enregistré quelques-unes maintenant. Il y a une autre très grosse composante dans le sport, qui est l'aspect, on va dire, la nutrition. J'imagine, en plus, dans les sports de combat, c'est d'autant plus important parce que vous devez passer sur la balance
Tout à fait.
avant chaque combat.
Oui.
Comment est-ce que toi, tu te prépares au niveau de ta nutrition? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu as des petites
Alors,
recettes?
oui, j'ai la chance depuis plus d'un an maintenant d'être suivie en fait par une marque qui s'appelle Alpha Cooking et qui me prépare tous mes plats du midi, par exemple.
Ok.
Voilà, donc tous mes plats du midi, comme ça, j'ai pas à me soucier de cuisiner entre deux entraînements. Ils ont étudié mes macros, mes besoins énergétiques, mes besoins caloriques, etc. Et du coup, ils me font des plats vraiment adaptés. Et ensuite, à côté de ça, ça fait 3 ans maintenant que je bosse avec lui. C'est Romain Lacoste, pardon. C'est un ancien karatéka qui est maintenant coach sportif et coach en nutrition. En diététique. Et lui, en fait, c'est le premier à m'avoir fait une diète
Ok.
que j'ai suivie à la lettre et qui m'a permis d'avoir une forme que j'avais jamais eue, que ce soit sur le plan vraiment énergétique et sur le plan corporel. Donc, oui, je suis suivie au niveau diététique, c'est hyper important. D'autant plus que voilà, je suis très musclée, donc je suis toujours au-dessus de mon poids. Donc on est constamment dans la recherche de perte de poids avant la compétition. Et je suis également suivie par une autre marque qui s'appelle NutriPure
Ouais.
sur les compléments alimentaires.
Ok, ouais, je sais
Voilà.
qu'ils sont plutôt bons, en plus, sur tout ce
Ils
qui est
sont.
articulation.
Oui, ils sont très bons et surtout c'est des produits français. On a de la traçabilité, les contenus ils sont excellents. Donc tout ce qui est normes européennes, antidopage, etc. On peut y aller les yeux fermés
Ouais.
et voilà. Mon diététicien il a approuvé à 100%, donc c'est important.
Ouais, bah en plus c'est par le c'est les frères Cario, c'est ça?
Tout à
Enfin,
fait.
Christophe
Oui, oui, oui.
et bon, donc en plus ancien karatéka, donc
Oui.
ça donne la confiance,
Oui,
j'imagine. Ouais.
tout à fait.
Bon, bah trop cool. En tout cas, c'est bien de les citer par ce biais-là, tu vois, plutôt qu'un autre, un autre biais. Je trouve que c'est bien de leur rendre hommage. Et tu parlais de la perte de poids juste avant les compétitions. C'est vraiment quelque chose d'intense ou
Non, non, non. Franchement, quand on compare à d'autres sports comme la lutte ou le judo, enfin, la perte de poids
Ouais.
qu'on a, les karatékas, ça peut faire sourire. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que ça peut impacter la performance. Ouais. Et du coup, voilà, on essaye de s'y prendre. Alors moi, je m'y prends une semaine à l'avance.
Ouais. Enfin,
une semaine à l'avance, je commence à descendre les glucides pour descendre en poids parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai très peu de masse grasse. Donc on joue sur les glucides et le matin de la pesée, on joue sur l'eau.
Bah ouais, c'est
voilà.
Ça, ouais.
Donc c'est pas... C'est pas violent, hein. C'est pas violent, c'est pas dangereux.
C'est pas des 5-6
mais...
kilos comme
non,
des boxeurs.
Non, non, moi
ou
j'ai que 2 kilos, donc c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme et c'est largement gérable.
Ok, bah, écoute, en tout cas c'est intéressant, mais après c'est sûr que tu as sur des boxeurs qui font 110, 120 kilos aussi, ils ont peut-être plus de marge tu vois, que toi. Parce que là, tu as été en catégorie moins de 50 kilos pendant.
Oui, je suis en moins de 50 kilos, c'est ça.
Ok, ouais.
Ouais.
Ouais, donc tu vois, déjà au niveau du pourcentage, c'est pas comparable, tu vois.
Non, non, oui,
non,
c'est
en
sûr.
Relatif,
C'est
en
sûr.
Absolu. Mais ok, super bien. Et tu parlais rapidement de ton travail avec Romain Lacoste.
Oui.
Tu disais que ça avait été vraiment assez révolutionnaire pour toi.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des gros changements, du coup, dans ton alimentation ou des choses que t'as vues complètement différemment?
Alors, j'ai totalement changé mon alimentation, sachant qu'avant de démarrer ma diététique avec Romain, j'en faisais pas en fait. J'avais aucune diète. Je mangeais ce que j'avais envie de manger, quand j'avais envie de manger. Quand j'avais besoin de perdre du poids, bah, en fait, je grammais seulement ce que je mangeais en fait. Donc, je pouvais manger 100 grammes, 200 grammes de féculents ou 200 grammes de légumes, c'était pareil. Donc, du coup, avec Romain, il a un peu révolutionné. Ma vision de la nutrition et de la diététique.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
On a vraiment tout changé de A à Z, on a enlevé le chocolat, les bonbons, les chips. surtout, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que je mange 4 à 5 fois par jour.
Ouais.
Voilà, je mange 4 à 5 fois par jour et je me sens en meilleure forme physiquement, mais aussi je vois les résultats sur le tapis. Vraiment, c'est impressionnant de voir que le corps réagit aussi bien.
D'accord, ok, ouais. Mais c'est vrai que des fois, les gens, tu le vois souvent sur les gens qui pratiquent de la musculation ou des sportifs de haut niveau, les gens disent « Ah, mais tu manges que ça ?» Ouais, mais en fait, j'ai mangé 2-3 heures avant et je mange en petite quantité
régulièrement. C'est ça, on mange généralement toutes les 3 heures. Donc ouais. Du coup, toutes les 3-4 heures. Après, le but, c'est pas de manger dans des quantités énormes, c'est juste d'apporter ce dont le corps a besoin pour fonctionner et puis pour se dépenser. Et après, s'il y a un petit creux, de toute façon, il y a toujours des solutions. Mais vraiment, Romain, il a fait un travail énorme sur moi, hein, parce que je partais de zéro. Hein.
Bon, bah, c'est marrant que tu le reconnaisses, en tout cas. Et j'espère que ça va te porter chance. Et d'ailleurs, en parlant de chance, tu as dit au début de l'entretien que c'était ta dernière année.
Oui.
J'ai lu que tu avais souhaité continuer quand tu avais appris que les JO de Tokyo.
Oui.
J'ai failli faire la boulette. Entre Paris et Tokyo, je me suis déjà trompé. Mais ouais, du coup, le karaté sera au JO de Tokyo.
Oui.
C'est, comment est-ce que tu le prépares, ça? Et comment est-ce que tu le vois un petit peu? C'est un petit peu ton baroud d'honneur, parce que tu as déjà tout gagné. Donc.
Alors oui, c'est l'objectif final. C'est uniquement pour les Jeux que je continue, parce que sinon, j'aurais déjà raccroché les gants. J'essaie de ne pas mettre de pression supplémentaire. On a une compétition toutes les 3 semaines, 4 semaines. Donc si on perd trop d'énergie à stresser, à se poser 12 000 questions, on n'a pas fini. D'autant qu'à partir du mois de janvier, on va avoir même des compétitions toutes les 2 semaines à 3 semaines. Et ce, jusqu'au mois d'avril. Donc en fait, ça va être juste un rythme infernal qu'on n'a jamais connu auparavant. Et j'essaie juste de me dire que chaque compétition est importante puisque chaque compétition rapporte des points pour le ranking. Mais qu'à la fois, ça fait quasiment 16 ans que je suis à haut niveau, que je suis performante, que j'ai toutes les qualités requises et que j'ai juste à mettre en place mon travail. En fait, le stress en compétition, je sais le gérer. Donc maintenant, il y a juste à se faire confiance, à faire confiance aux entraîneurs, à écouter son entourage aussi. quand ils disent notamment de lever le pied, je te sens fatigué, etc. Écoutez les moindres signes de fatigue, parce que c'est surtout une gestion de la fatigue, en fait, sur un marathon, parce que clairement, c'est un marathon qu'on a commencé il y a un an déjà. Et là, c'est la dernière année, donc le plus dur à gérer, c'est ça, c'est l'état de forme, en fait. C'est même pas tant les compétitions, puisqu'on est tellement habitué maintenant à faire des compétitions que c'est plus problématique, c'est plus l'état de forme à gérer, oui. Surtout, j'arrive à bientôt 31 ans, donc forcément, je récupère moins bien que quand j'avais 20 ans.
Ouais, puis j'ai cru comprendre que tu avais un petit peu mis ça de côté, mais que tu travaillais aussi avant en tant qu'avocate.
Oui, oui.
Peut-être que c'est des idées que je m'en fais, mais le travail d'avocat, c'est quand même un travail très prenant, assez intense.
Oui, neurologiquement, oui. C'est pas un travail physique, mais c'est vrai qu'au niveau neurologique et concentration, ça prend énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix cette année de vraiment mettre de côté, même si je prends toujours quelques dossiers par-ci par-là. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai du travail.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est pas ma priorité pour l'instant. J'aurai tout le reste de ma vie pour travailler, pour exercer. Mais je reste quand même un pied dedans et de temps en temps, je prends quelques dossiers.
Ouais, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu un moment où tu as quand même beaucoup, beaucoup travaillé. Et que tu avais un rythme de vie assez infernal.
Jusqu'en 2018. En 2018, en fait, j'ai travaillé. Donc, c'était entraînement, boulot. Et en effet, ça a été très, très dur. J'ai connu deux préparations mondiales en même temps que deux échéances professionnelles très, très importantes qui étaient l'examen d'entrée à l'école d'avocat et le certificat d'aptitude, donc le certificat qui permet d'exercer par la suite. Combiner deux préparations qui nécessitent normalement d'être concentré exclusivement sur un objectif, ça a été très dur. Je pleurais après chaque entraînement, je pleurais en rentrant à la maison parce que j'ai été vraiment épuisée. Je suis vraiment allée au bout de moi-même sur ces deux préparations-là, en 2014 et en 2016. Mais au moins, j'ai découvert que j'avais des ressources, que c'était juste une question de mental, d'organisation, et que le corps humain était capable d'accepter beaucoup de choses.
Écoute, en tout cas, félicitations. Moi, je trouve que c'est ton parcours, il est vraiment inspirant. De voir que tu as réussi à mener de front à la fois une vie sportive au top niveau, quoi, où vraiment on ne peut pas faire mieux, et en même temps d'avoir une vie pro hyper épanouie et hyper exigeante. En tout cas, moi ça m'a vraiment bluffé quand j'ai appris que tu travaillais, que tu avais choisi une des voies professionnelles les plus exigeantes, quoi, en termes de quantité de travail.
C'est vrai que ça demande une quantité de travail assez incommensurable. Ouais.
Donc franchement, bravo à toi. C'est vrai, j'espère que ça en inspire à plein, parce que c'est possible déjà d'avoir plusieurs rêves et de le faire.
Bien sûr, c'est possible. Je ne juge pas être plus intelligent que quelqu'un. C'est juste que j'ai travaillé très, très dur. Vraiment, ouais. J'ai travaillé jusqu'au bout.
Mais tu as parlé un petit peu de mental et de travail. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris et que j'ai beaucoup apprécié dans ta personnalité, c'est le personnage que tu es sur un tatami. Et on sent que mentalement, tu es au-dessus de tout le monde. On sent que tu es prête à tout gagner. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé un petit peu, la femme que tu es sur un tatami, ou je dis la femme, mais c'est peut-être un personnage, c'est peut-être un animal, j'en sais rien.
Alors, je ne l'ai pas travaillé. Je pense que déjà, c'est dans mon ADN d'être très rigoureuse, de vouloir toujours rechercher la perfection, le geste parfait, la technique parfaite, le timing parfait. Souvent, mes entraîneurs, ils devaient lutter contre ça. C'est-à-dire que tant que c'était pas parfait, je rechignais. Je me disais non, c'est pas assez bien. Je me contentais vraiment de rien, en fait. Il fallait que ce soit parfait tout le temps. Et si c'était pas parfait, je faisais la tronche, je me braquais. Et pour eux, ça a été difficile de devoir gérer ça. Parce qu'au final, je m'imposais une exigence trop forte. Mais vraiment, je m'en rends compte aujourd'hui, trop forte. Parce que même si pour moi, c'était pas assez bien, quand on regardait l'ensemble... Du travail, ou alors quand on comparait avec les autres, c'était largement suffisant, en fait. Enfin, c'était même très bien. Donc, cette exigence, elle a été... Euh, Il y a eu des moments où elle m'a fait tomber un petit peu, hein. Elle m'a fait douter, elle m'a amenée au plus bas, vraiment, m'a fait toucher le fond. Mais c'est cette exigence et c'est cette force de caractère et cette envie de toujours mieux faire qui m'ont permis d'atteindre aussi les sommets, et ça, j'en ai conscience. Après, je me dis que si je suis arrivée là où je suis, c'est que j'ai été très bien entourée, très bien drivée, mais aussi parce que c'est grâce à ma rigueur et à ma force de travail.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Mais ça se voit. En tout cas, on voit que tu t'entraînes énormément. Tu répètes très souvent, quand tu prends la parole, que tout est possible et qu'il suffit juste de travailler pour.
Moi, il n'y a pas de secret de toute façon. Il n'y a que le travail qui mène à l'endroit où on veut aller.
Et du coup, ouais, pour le, on va dire la partie un petit peu combat, il y a des gens qui t'ont accompagné aussi sur l'état d'esprit qu'il fallait avoir avant un combat, pendant un combat.
Alors,
parce que des fois, quand je regarde tes adversaires, je me dis, ça se voit, son adversaire a peur. Le combat n'a même pas commencé.
Non, c'est vrai que j'ai un ascendant psychologique sur mes adversaires que je n'explique pas. C'est sans doute mon état d'esprit sur le tatami, le fait que je baisse jamais les bras, que je pense que c'est ça. Après, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est sûr que une fois que je suis sur le tatami, j'ai plus de stress. Je suis délivrée de tout stress, je suis sur mon élément naturel, je sais ce que j'ai à faire. Et en fait, autant avant de rentrer sur le tatami, 10 secondes avant, je peux visualiser mon combat et je peux me visualiser en train de me faire battre à plate couture par mon adversaire, en train de prendre des cannes dans la tête, etc. Mais une fois que j'ai posé le pied sur le tapis, c'est mon élément, c'est mon combat et c'est ma victoire. Donc je pense que c'est quelque chose, sans vraiment l'avoir travaillé, c'est quelque chose que je dégage naturellement et que ça peut faire peur à mes adversaires. Surtout que quand je suis vraiment dans un bon état de forme et que je sais que je suis prête pour la compétition, je suis d'autant plus redoutable parce que du coup, en plus, j'ai la confiance en moi qui est inébranlable. Donc je suis capable d'encaisser des points et de rester très lucide et d'aller chercher d'autres points derrière. Donc je pense que ça peut être effrayant. Après... Non, je ne l'ai pas forcément travaillé. Je pense que c'est dans mon caractère et que mes parents m'ont toujours poussée dans la culture de l'effort, dans la gagne. Et que du coup, c'est pas inné, mais c'est dans mon ADN.
Ok. C'est hyper intéressant, en tout cas, comme réponse. Et...
Mais ils l'ont très bien cultivé, mes parents.
Non, mais ça se voit que tu as quelque chose en plus que les autres, tu vois. Et je ne dis pas ça pour te flatter. C'est... Il y a des gens qui survolent, tu vois, tu regardes Raphaël Nadal sur un tennis, tu vois que mentalement, il est un petit peu au-dessus de ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez toi. Et du coup, je me disais, mais non, ça se travaille, c'est pas possible.
C'est plus, en fait, je pense que je l'ai travaillé au quotidien à l'entraînement en me faisant mal et en me faisant subir des choses que les autres se sont peut-être pas infligées, quoi. Je pense que c'est plus au quotidien, ça m'a rendu forte, en fait, de me mettre mal sur les entraînements, de pleurer, de pas être contente, de pas être satisfaite. Je pense que c'est ça qui m'a rendu forte mentalement.
Ok. Et juste avant, là, tu parlais de visualisation sur tes combats. Qu'est-ce que tu fais un petit peu une heure avant un combat, et est-ce que tu as des petits gris-gris, est-ce que tu fais des petits exercices de concentration?
Alors une heure avant un combat, je suis plus trop dans la visualisation, je suis plus dans l'action parce que du coup je suis en plein échauffement.
Ouais.
Mais quand j'appréhende un petit peu une compétition pour diverses raisons, l'année dernière par exemple je revenais de blessure, j'ai été arrêtée pendant 5 mois, donc du coup j'appréhendais un petit peu mon retour à la compétition. Je me suis dit le meilleur moyen, c'est de visualiser la compétition tous les soirs 3 semaines avant cette compétition, et ça m'a permis d'avoir mine de rien, le cerveau il est intelligent, il enregistre les choses, donc même si on l'a pas vécu vraiment, le fait d'avoir travaillé le cerveau pendant 3 semaines, en fait c'est comme si j'avais jamais quitté l'aire de compétition, et je me suis retrouvée comme dans mon élément, en fait, comme si je l'avais jamais quitté. Donc ça va m'arriver de faire de la visualisation quand vraiment je sens qu'il y a une compétition qui me stresse plus qu'une autre. Après, la veille de la compétition, j'essaie surtout de me détendre un maximum, d'être très relâchée parce que je sais que le lendemain, ça va être difficile. Je vais faire des étirements, je vais faire de la respiration. Et puis même pendant la compétition, si je sens que je bloque un petit peu et que je suis trop tendue, bah, je ne vais pas hésiter à le verbaliser à mon coach. On va parler, on va échanger. Je vais faire des exercices de respiration, travailler un petit peu sur la cohérence cardiaque. Parce que mon petit séjour au CERS de Cap-Breton m'a servi aussi à apprendre 2-3 trucs de ce côté-là. Et voilà, mais c'est surtout que je vais verbaliser les choses et je vais communiquer pour essayer de sortir ce mauvais stress.
Ouais, parce que j'imagine que tu dois, avant, peut-être dans tous les sports de combat, avant, tu as un stress obligatoire que tu dois construire pour être, pour avoir un petit peu plus d'hormones, pour avoir un peu plus de nervosité, mais qu'il y en a une partie de ce stress qui est pas forcément... qui peut être un peu toxique pour...
Le stress est bon, en fait. C'est souvent ce que j'explique aux parents ou aux jeunes qui me posent des questions sur le stress. Le stress est normal. Si on arrive sur une compétition sans stress, bah, c'est qu'en fait, ça n'a pas de réel enjeu pour nous, ça n'a pas une réelle importance. Je pense que si on est stressé, c'est que c'est un événement qui est important pour nous, donc c'est logique que le stress soit là. Après, le stress mesuré qu'on peut contrôler et dépasser, c'est du bon stress. Mais à partir du moment où on se sent bloqué pendant le combat, où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut de son propre corps, je considère que c'est du mauvais stress et que ça, c'est pas bon. En effet, ça devient du stress un peu toxique. Donc, pendant le combat, ça peut m'arriver des fois, oui, de pas réussir. Surtout sur le premier combat. C'est souvent le premier combat de la compétition. Après, une fois que la compétition est lancée, elle est lancée. Ouais. Mais souvent, sur le premier combat, ça peut m'arriver. Et bah, dans ce cas-là, je crie un bon coup avant de rentrer sur le tatami. Ça fait du bien.
Ok, mais c'est un bon petit conseil, d'ailleurs. Moi, quand je faisais du théâtre, on avait... Avant de monter sur scène, on préparait du coup un gros spectacle. On jouait devant 500 personnes. Et c'était, il y avait un super comédien qui était venu un petit peu nous encadrer et nous conseiller. Et nous avait dit, il faut que vous ayez un geste ou un cri avant de monter sur scène pour libérer, pour laisser tout au vestiaire. Quoi.
Vraiment, ouais,
une fois qu'on l'a fait, on est quelqu'un d'autre et puis on est dans son élément. Donc,
c'est exactement ça l'idée.
Okay.
Voilà.
Bon, bah, je vois un peu je vois un peu à quoi ça te sert. Et on a abordé plein de sujets, on a parlé de plein de belles choses. Hier soir, je parlais avec ma compagne de sport de combat et de féminité.
Ouais.
Et elle n'a jamais voulu se mettre à la boxe ou à du judo ou à du karaté parce qu'elle se sent moins féminine si elle faisait un sport de combat. Du coup, je lui dis, Aurélie, coucou, on pense à toi. Qu'est-ce que tu dis à une fille qui te dit, qui te challenge un peu sur ta féminité? Parce que toi, t'es quelqu'un de super féminin. Je trouve que t'es féminine.
Je suis très féminine et j'aime ça. Je lui dirais juste de regarder nos équipes de France, que ce soit en karaté, que ce soit en boxe, que ce soit en judo. Il y a énormément de nanas super canon, quoi, franchement.
Ouais.
Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est en sport de combat, on n'est pas féminine, mais regardez les filles, quoi.
Mais je pense que c'est plus dans le comportement que de toi physiquement. Ou...
Mais son sport, c'est certes, ça définit le caractère, mais ça ne définit pas si on est une femme ou un homme. On reste, avant d'être sportive, on reste des femmes. Et je pense que ça, d'autant plus que le karaté, c'est pas un sport où on va chercher la force, en fait. C'est pas un sport de force. C'est un sport de vitesse, c'est un sport de fluidité et c'est un sport où il faut être un peu malin et stratégique. Donc je pense que c'est carrément les attributs d'une nana, hein, d'être fine, d'être fluide, d'être maligne.
Il y a une super équipe de France de karaté.
Puis il y a plein de belles nanas, hein, franchement.
Mais je sais pas d'où vient cet a priori, parce que je l'ai retrouvé chez d'autres amis aussi qui veulent pas. Ou peut-être que ma question était mal posée, mais qu'est-ce que tu dirais plutôt à une fille qui veut pas essayer un sport de combat? Tu vois, qu'il y a ce petit frein-là, tu vois ou...
Je lui dirais que essayer, c'est l'adopter et qu'une fois qu'on y est, en fait, on dégage une telle confiance en soi qu'on devient une femme, mais beaucoup plus forte et qui est capable de s'assumer et d'exprimer tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle ressent. Donc non, il faut foncer. Au contraire, je pense que c'est libératoire de faire un sport de combat. Vraiment.
Ok. Moi, je lui dirais en spoiler de l'épisode, parce qu'elle elle les écoute toutes quand même. En tout cas, ouais, c'est très inspirant. Après, bon, je suis un mec, donc forcément, on va dire moi, ça me concerne un petit peu moins. Mais en tout cas, j'étais curieux de savoir un peu ton rapport à la féminité, parce que moi, je t'ai trouvé très féminine, très souriante, tu vois, et même, je te le disais tout à l'heure, tu es quelqu'un de différent. Enfin, on a l'impression, en tout cas, que tu
es. Ah oui, non, c'est sûr, je suis pas la même. non, je suis pas la même sur le tapis en dehors. Ouais. Rien à voir.
Tu te souviens de ton plus beau souvenir ?
Oui, championnat du monde à Bercy en 2012.
Ah oui, pas d'hésitation.
non, aucun. Il y avait 15 000 spectateurs. J'étais la première finale française. Puisque les moins de 50 kilos, c'est la première finale tout le temps sur les championnats du monde. Après les katas, en tout cas. Et 15 000 personnes qui crient mon nom. Je me souviens que le matin, au petit déjeuner, j'étais allée voir mon entraîneur en larmes. En mode, j'ai trop peur, je vais pas pouvoir y aller. Il y a 15 000 personnes qui m'attendent. Je peux pas, j'ai trop peur, quoi. Et en fait, paradoxalement, on a discuté, ça m'a fait du bien. Juste avant de rentrer, en fait, on traversait toute une arène, une voie, en fait, avant de rentrer dans l'arène de Bercy, toute une espèce de couloir. Et dans ce couloir-là, il me parle, mais il me parle de façon assez agressive, déterminée, vraiment pour me mettre dans le combat. Et il me dit pas de stress. Et là, je le regarde avec le sourire, je lui dis « y a point S ». Et en fait, il a été tellement choquée de ma réaction, parce que c'était pas du tout dans mes habitudes. Moi, j'ai toujours sourcils très froncés, concentrés, regard un peu vénère. Et du coup, en fait, là, il s'est dit, elle est pas dedans. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Bon, il l'a vu après sur le combat. C'est que j'étais tellement relâchée, détendue, heureuse d'être là que j'ai fait la finale et le combat de ma vie, quoi. En plus, j'étais contre la championne du monde en titre en face, la chinoise, qui était championne du monde en titre 2 ans auparavant. Et c'était un pur bonheur, ce combat, parce que j'ai eu la chance de vivre ce que peu de sportifs vivent, c'est l'état de flow. Cet état dans lequel, en fait, on n'est pas dans son corps, on est en dehors, on voit tout ce qui passe, tout ce qui se passe, et on maîtrise absolument tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'on commence le combat, c'est elle qui marque le premier point. Donc ça aurait pu me miner totalement, mais alors pas du tout. Je suis revenue en yo-yo, j'ai dit « Oh bah au moins elle a lancé le combat, c'est bien, allez on y va, réveille-toi, vas-y. » Et en fait j'ai fait le combat de ma vie, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et je gagne par 8 à 1. Donc j'ai presque gagné ma finale de championnat du monde par 8 points d'écart contre la championne du monde en titre.
Quel plus beau score.
Quel plus beau score, devant 15 000 personnes qui criaient mon prénom, devant ma famille, ma sœur qui était montée pour l'occasion, etc. Donc... c'est vraiment le moment le plus émouvant de toute ma carrière, parce que en plus d'avoir gagné en France devant son public, devant sa famille, j'ai pris un plaisir de dingue. Et ce qui est rare sur une finale, parce que généralement l'enjeu prend le dessus.
Ouais, ouais.
Et là, c'était le jeu avant plus que l'enjeu, quoi. C'était vraiment un pur bonheur. Cette finale, vraiment, j'en ai profité du début à la fin, et c'était excellent.
Bah, ça se voit dans tes yeux.
Ouais.
on sent que t'en reparles avec les émotions de l'époque. Et,
Ah bah, franchement, c'est comme si j'y étais encore.
Bah, écoute, on souhaite de revivre cet état de flow là dans quelques mois.
Ouais. Donc, finale des Jeux, ça serait beau.
Et c'est marrant que tu parles de cet état de flow, parce que c'est vrai que ça revient de temps en temps, tu vois, dans certains arts ou certains sports de combat. C'est, qu'est-ce qui t'en a parlé pour la première fois là, de cet état d'esprit ?
C'est une amie qui a été championne du monde en 2008, qui était donc mon aînée, Tiffany Fanja. Justement, elle m'a raconté que sur cette compétition-là, c'était un robot. Elle ressentait rien, il n'y a rien qui l'atteignait, et elle savait que c'était une machine de guerre et qu'elle allait aller au bout. Elle en était convaincue. Tout ce qu'elle faisait sur le tatami, ça passait. Tout ce qu'elle voulait faire, ça passait. Et du coup, elle m'a dit, c'est ça l'état de flow. C'est quand tu arrives à un point où il n'y a rien qui te perturbe et où tout te réussit.
Okay.
Voilà. Moi, je l'ai vécu 4 ans après elle.
Ouais. C'est quelqu'un qui t'a aidé un petit peu dans ta carrière après.
Oui. Elle m'a aidé parce qu'on a été en équipe de France pendant des années ensemble. Là, elle a arrêté en 2013, donc on s'est un peu perdu de vue de par nos objectifs différents. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a été importante dans ma carrière, parce que on était un peu cul et chemise.
Ouais.
On était tout le temps ensemble et. Dans les moments difficiles, forcément, elle avait beaucoup plus d'expérience que moi et elle a toujours été de très bons conseils. C'était la capitaine de l'équipe en plus, donc elle avait ce rôle-là. Et même après, quand elle a arrêté et que j'ai parfois pris mon téléphone pour l'appeler et lui demander conseil. Vraiment, okay. Et elle a toujours été de très bons conseils.
Et si on devait inverser les rôles, tu dirais quoi à une petite fille qui vient de voir et qui débute le karaté et qui te dit qu'elle veut devenir championne du monde?
Je lui dirais qu'il faut travailler dur, qu'il ne faut pas avoir peur de se faire mal, qu'elle va perdre parce que c'est le jeu, parce que c'est le karaté. Il n'y a jamais personne qui a un vaincu. C'est comme ça, c'est dans notre sport, ça va tellement vite qu'elle va forcément perdre. Mais que ça fait partie du jeu, que ça va la construire, que ça va la rendre forte. Et que si elle veut vraiment devenir championne, il va falloir qu'elle s'accroche et qu'elle se batte des fois contre elle-même aussi. Mais que si elle travaille dur et qu'elle s'entoure bien, qu'elle écoute sa famille, qu'elle écoute ses entraîneurs, elle pourra y arriver sans souci.
C'est un beau conseil en tout cas, riche. Il y en a plusieurs dans le même. Tu vois. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Alexandra.
Avec plaisir.
Comme je te le disais, il y a une petite question un petit peu rituelle pour terminer.
Oui.
Quel serait le prochain sportif que tu aurais envie d'écouter sur ce podcast?
Alors, je ne vais pas être originale, c'est une karatékate, mais c'est une karatékate que j'admire énormément. C'est une amie qui s'appelle Jessica Hugues, qui a une force de caractère assez impressionnante. D'ailleurs, je suis toute émue de parler d'elle. Elle a connu beaucoup de choses difficiles dans sa vie et elle en est toujours ressortie très, très forte. Donc, j'aimerais bien qu'elle se dévoile un petit peu au cours de ce podcast.
Ok, ça roule. Mais écoute, je lui passerai un petit coup de fil ou je lui enverrai un petit message de ta part alors.
Avec plaisir, elle sera contente.
Merci beaucoup, Alexandra.
Avec plaisir, Barthélémy.
Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors pensez à le partager à un ami sportif ou tout simplement sur vos réseaux sociaux. Allez, je vous laisse tous les liens et les références de l'épisode dans les notes de ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.